Bonjour à tous.
Si vous ne vous sentez pas bien, essayez les petites pilules Carter pour le froid. Elles vous garantissent l'afflux du plus vital des sucs digestifs, la bile. Quand ce suc vital coule à raison d'un litre par jour, il nous permet de digérer nos aliments, arrête leur fermentation. Pour tout le monde, la vie devient rose. Exigez bien les petites pilules Carter pour le froid.
Bienvenue sur Les Nouveaux Chemins, où toute cette semaine, la philosophie va à l'estomac. Après avoir découvert lundi que le ventre a été jusqu'aux lumières, tenu à l'ombre du bien, du beau et du vrai, après avoir découvert mardi que nos goûts et dégoûts étaient toujours et d'abord soumis à nos tabous, et après avoir découvert hier que l'appétit du géant Rabelais était à la mesure de nos désirs, découvrons aujourd'hui comment la digestion se fait dialectique et inversement. Et toute l'équipe des Nouveaux Chemins a elle aussi la philosophie à l'estomac. Marianne Chassor, Antoine Ravon, Lucie Tardy, David Pargamin, Denis Ramon, sans oublier bien sûr Adèle Van Rett, avec à la lecture des textes cette semaine Vincent Schmitt, à la réalisation Hervé Marchon et à la prise de son aujourd'hui Vincent Ronet. Les philosophes qui se sont mêlés de traiter des sciences se partageaient en deux classes, à savoir les empiriques et les dogmatiques. L'empirique, semblable à la fourmi, se contente d'amasser et de consommer ensuite ses provisions. Le dogmatique, tel que l'araignée, ourdit des toiles dont la matière est extraite de sa propre substance. Mais il y a aussi l'abeille. L'abeille, elle, garde le milieu. Elle tire la matière première des fleurs des champs et des jardins. Puis, par un art qui lui est propre, elle la travaille et la digère. La vraie philosophie fait quelque chose de semblable. Elle ne se repose pas uniquement, ni même principalement, sur les forces naturelles de l'esprit humain, et cette matière qu'elle tire de l'histoire naturelle, elle ne la jette pas dans la mémoire telle qu'elle l'a puisée dans ses deux sources, mais après l'avoir aussi travaillée et digérée, elle la met en magasin. Ainsi, notre plus grande ressource, et celle dont nous devons tout espérer, c'est l'étroite alliance de ces deux facultés, l'expérimentale et la rationnelle. Que veut-on dire quand on dit que l'on a soif de connaître, que l'on a assimilé des savoirs ou encore que l'on digère ce que l'on a appris? Si l'esprit ressemble à un ventre qui se nourrit de connaissances, comment notre ventre réfléchit-il à son tour notre esprit et ses opérations d'ingestion, d'assimilation et de digestion? Et bien pour parler de cette dialectique de la digestion et cette digestion de la dialectique à la lumière de Descartes, Hegel et Lévinas, j'ai le grand plaisir d'accueillir Claire Pagès, directrice de programme au Collège international de philosophie et auteur notamment de « Qu'est-ce que la dialectique ?» et de « Hegel et Freud, les intermittences du sens ». Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour, merci beaucoup.
7 x 0 et 4, 4.
Après
7 x 0, 0.
Eh ben, t'es pas venu nous regarder.
7 x 1, 7.
Bon, mais...
3 x 6, 12.
18.
18.
Continue.
3 x 1, 1.
3 x 1, 1. Tu veux la copier 100 fois la table de 3?
3 x 1, 3.
Continue.
5 x 6, 25.
Récite la table de 5.
5 x 1, 5, 5 x 2, 10.
Après
5 x 3, 15, 5 x 4, 20. 5 x 5, 25. 5 x 6, 30.
5 x 7.
5 x 7, 35. 5 x 8.
Une claque dans une.
Alors Claire Pagès, ça n'est pas un extrait de repas que l'on vient d'entendre, c'est un extrait du documentaire réalisé par Nicolas Philibert qui est sorti en 2002, Être ou avoir, où l'on entend un enfant réciter ses tables de multiplication avec sa mère, donc qui n'est pas tout à fait tendre en tout cas dans cet extrait. Et cela permet de poser, cet extrait permet de poser la question de la constitution du savoir, l'apprentissage d'un savoir, mais souvent en jeu des termes tels que l'assimilation, la digestion. Alors qu'est-ce qui serait commun entre digérer des aliments et digérer une leçon de mathématiques ?
Alors, il y a quelque chose de commun qui est que quand on digère un aliment, on va le faire sien. Vous avez une matière étrangère qui, grâce à l'action de la bile, des sucs gastriques, va être transformée pour constituer, va circuler dans le sang, constituer une partie de votre corps et vous permettre de vous maintenir en vie, de croître, d'exister. Et il y a quelque chose de cet ordre dans l'appropriation d'un savoir pour que le savoir fasse sens et reste pas extérieur. Comme dans l'extrait, on voit que pour le petit garçon, ça fait pas tellement sens. Il arrive pas tellement à comprendre la logique de la multiplication.
Pour le coup, il le digère pas. Il consomme, en fait. Il récite.
Il récite sans comprendre pour que ce soit compris et pour que on puisse s'en resservir, que ça devienne un matériau ou une compétence. Il faut l'avoir fait sien et d'une certaine manière effectivement l'avoir digéré, c'est-à-dire aussi l'avoir un petit peu transformé. Il y a une appropriation personnelle des savoirs. Il faut que ça ait un sens pour soi, que ça veuille dire quelque chose pour moi, même s'il y a une part d'interprétation là-dedans, pour que je puisse ensuite le réinvestir. Et le même savoir va pas avoir tout à fait le même sens, c'est pas la même transformation qui va se jouer dans l'esprit de chacun.
Vous venez de dire, Claire Pagès, faire sien, c'est ce qui est en jeu dans le fait de digérer un savoir. Donc, ça suppose en fait que, comme l'indique Bacon dans le texte, Francis Bacon dans le texte que j'ai lu en ouverture d'émission, il y a trois manières d'approcher le savoir. Ça peut être à la manière de la fourmi, où en fait où on est dans la consommation, à la manière de l'araignée, où là en fait on n'a aucun rapport avec l'extériorité, mais on tisse juste des connaissances à partir de son seul esprit. Et puis il y a l'abeille entre les deux qui, elle, effectivement puise dans le monde, mais fait sien ce qu'elle trouve dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire s'approprier, faire sien quelque chose qui était jusqu'ici différent dans la pure altérité ?
Eh bien, on dit souvent quand on arrive à utiliser quelque chose qu'on fait son miel, hein, en utilisant cette jolie métaphore, c'est-à-dire qu'on arrive à donner un sens et une utilité, une fonction pour soi à quelque chose qui nous est d'abord étranger. Un savoir, c'est quelque chose qui d'abord nous est extérieur, ou une représentation, ou une compétence, et on va réussir à lui donner une fonction pour nous, à s'en servir, c'est-à-dire à être le sujet de cette connaissance, à être le sujet de ce savoir, à pouvoir dire « moi, je pense ça » ou « je crois ça, j'ai cette représentation » ou « je vais mettre en œuvre cette connaissance, une règle de multiplication, pour en déduire en première personne quelque chose ». Et donc, il y a tout un processus d'appropriation pour que ce qui était d'abord étranger devienne mien. Alors, ces trois modèles de la connaissance, ils sont intéressants parce que on voit les métaphores de la nourriture, mais on peut se demander si ça pourrait être peut-être des étapes ou des stades. Est-ce qu'on s'inscrit forcément dans l'un des trois, ou est-ce qu'on pourrait passer de l'un à l'autre? C'est une hypothèse qui est en particulier une hypothèse qu'on trouve dans la psychanalyse freudienne, parce que Freud suggère que le jugement de quand on affirme quelque chose ou quand on nie, on dit « cela appartient » ou « cela n'appartient pas », il fait remonter cette fonction du jugement qui est à la base d'un certain nombre de nos connaissances et de nos représentations aux pulsions élémentaires qui consistent à manger ou avaler ce qui est bon et à cracher ou faire sortir de soi ce qui est mauvais. Donc à la consommation du bon et à l'expulsion du mauvais, qui serait un petit peu le modèle de la fourmi, hein, de la consommation. Donc là, on aurait un stade préliminaire, enfin on aurait en tout cas une connaissance qui dériverait littéralement du fait de manger ou de cracher, hein, donc des pulsions primaires.
Et là, dans ce cas-là, c'est peut-être aussi la limite de comparer l'assimilation, on va dire, de connaissances à la digestion d'aliments, c'est que effectivement, la digestion d'aliments suppose des déjections. Or, on part du principe que quand on apprend quelque chose, on ne perd rien. Au contraire, on emmagasine des connaissances.
Alors, c'est un point qu'on peut discuter, parce que on peut se dire aussi que l'appropriation d'une connaissance, c'est une forme d'interprétation ou un point de vue sur la connaissance ou sur le savoir, qui implique que moi, je vais laisser de côté tel aspect, que j'arrive moins bien à faire mien, ou que je vais laisser de côté certains aspects. Et donc, il pourrait y avoir, pour que je puisse m'approprier des choses, le fait qu'on laisse des éléments dans l'angle mort. Donc, il pourrait y avoir du reste, justement parce que cette connaissance, elle doit devenir mienne en première personne, et donc peut-être je vais pas réussir à m'approprier tout, et je vais laisser des choses de côté.
Vous avez décrit Claire Pagès finalement un mouvement qu'on pourrait dire dialectique, c'est-à-dire à savoir puiser dans l'extérieur un aliment, un savoir, l'ingérer, le digérer, le faire sien, perdre le négatif ou mettre de côté ce qui ne me semble plus intéressant et devenir meilleur ou être différent ou devenir quelqu'un d'autre, se transformer en tout cas. Et c'est précisément le mouvement de la dialectique et c'est en ça que digérer, que ce soit un savoir ou un aliment, digérer est un mouvement dialectique.
Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs un processus, comme la dialectique est un processus, donc avec un certain nombre de moments. Et c'est quelque chose qui prend du temps, qui s'inscrit dans une histoire. Hein. On en fait souvent, on se rend pas compte du processus de digestion parce que quand tout se passe bien, ça se fait à notre insu. Mais quand on a été à un repas trop arrosé ou quand on a trop mangé, là, on prend conscience que c'est un processus long, compliqué. Qu'il y a des étapes. C'est un processus de transformation, je vous disais, avec des moments. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a justement ce moment négatif dans les deux cas, parce que les aliments vont être... on ne les absorbe pas tels quels. Ils vont être...
Dissous, transformés.
Dissous. Et donc, divisés, peut-être dirait Hegel. D'abord, il faut pouvoir les mâcher. Et c'est un gros problème pour la digestion quand il n'y a pas une dentition opérante chez les petits-enfants ou quand il y a des problèmes de dentition. Donc il y a cette première étape, hein, on va couper, broyer les aliments. Et puis après, il y a tous la bile, les sucs gastriques qui vont achever de les dissoudre quand c'est possible. Donc il y a ce travail, hein, du négatif, on va couper, broyer pour que ça puisse devenir assimilable. Et on a ça dans la dialectique. Hein. La dialectique, chez Hegel, c'est un travail du négatif ou de la négation. On va diviser, nier, pour pouvoir en faire ensuite quelque chose.
Avant de parler d'Hegel, on va d'abord parler de Descartes.
Je suis à la poursuite d'un lapin blanc, alors si vous voulez bien...
Il est là,
laissez-moi passer, soyez
gentil. Désolé, voyez, la porte est trop petite. Elle est tout à fait impassable.
Vous voulez dire impossible?
Non, impassable. Rien n'est impossible. Vous devriez essayer la bouteille sur la table.
La table?
Oh! Lisez les directives et vous saurez directement comment vous diriger dans la bonne direction.
Ça a le goût de la tarte aux fruits. De l'ananas. Du pudding. De la dinde au marron. Oh! Qu'est-ce qui m'arrive?
Vous diminuez comme une vulgaire chandelle.
Mais regardez, à présent j'ai juste la bonne taille.
Oh, ça ne sert à rien. J'ai oublié de vous en avertir. Je suis fermé à clé.
Oh, non.
Oh, suis-je bête? Vous avez la clé, naturellement.
Quelle clé?
Allons, ne me dites pas que vous l'avez oubliée là-haut.
Oh, que dois-je faire? Vous avez une idée?
Essayez la boîte, ça me paraît tout indiqué.
Mangez-moi. Bon. Mais Dieu seul sait ce que ça va donner. Oh, 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 oh. Qu'est-ce que vous dites?
Je disais à juste titre que ce produit fait de l'effet.
Oh, franchement, c'est pas drôle. Je suis si grande, jamais je sortirai d'ici.
Oh, allons, pas de bêtises. À quoi sert de verser des larmes?
À rien, je sais, mais je ne peux pas m'arrêter.
Quand nous parlons du corps d'un homme, nous n'entendons pas une partie déterminée de la matière, mais seulement nous entendons toute la matière qui est ensemble unie avec l'âme de cet homme. En sorte que, bien que cette matière change et que sa quantité augmente ou diminue, nous croyons toujours que c'est le même corps. Pour moi qui crois que la nutrition ne se fait que par une continuelle expulsion des parties de notre corps, qui sont chassées de leur place par d'autres qui y entrent, je ne pense pas qu'il y ait aucune particule de nos membres qui demeure toujours la même numéro un seul moment. Encore que notre corps, en tant que corps humain, demeure toujours le même numéro pensant qu'il est uni avec la même âme. En ce sens-là, il est indivisible, car si on coupe un bras ou une jambe à un homme, nous pensons bien que son corps est divisé, et nous ne pensons pas que celui qui a un bras ou une jambe coupée soit moins homme qu'un autre. De plus, je considère que lorsque nous mangeons du pain et buvons du vin, les petites parties de ce pain et de ce vin, se dissolvant en notre estomac, coulent un continent de lait dans nos veines, et par cela seul qu'elles se mêlent avec le sang, elles se transsubstancient naturellement et deviennent des parties de notre corps. Bien que si nous avions la vue assez subtile pour les distinguer d'avec les autres particules de sang, nous verrions qu'elles sont encore les mêmes numéros qui composaient auparavant le pain et le vin. En sorte que si nous n'avions point d'égard à l'union qu'elles ont avec l'âme, nous les pourrions nommer pain et vin comme devant. Claire Pagès, je viens de lire un extrait de la lettre au père Mélan du 9 février 1645. C'est donc Descartes qui a écrit cette lettre et qui permet de poser un problème à partir du cas de la digestion. C'est la question de ce qui fait l'unité du corps et de l'âme, de ce qui constitue la numéro, c'est-à-dire l'identité d'une personne dès lors qu'il ingère un élément extérieur. C'est par exemple le cas d'Alice dans l'extrait qu'on a entendu juste avant. Alice qui va boire une potion qui va la rendre toute petite, qui va manger des biscuits et qui va la rendre énorme, très grande. Alors qu'est-ce qui transforme l'homme dans le fait d'ingérer et de digérer quelque chose? Est-ce que l'homme devient ce qu'il mange? Est-ce qu'il devient le pain ou le vin ou la potion qu'il boit? Ou est-ce qu'il ingère, dissout ses aliments dans son corps et qu'il reste lui-même?
Alors, la mise en relation avec l'extrait d'Alice est vraiment très, très intéressante parce que ce qui arrive à Alice, et elle le dit juste après, c'est qu'elle a tellement changé dans une même journée, elle s'est tellement transformée qu'elle ne sait plus qui elle est. Elle va dire, mais j'ai tellement changé, j'ai grandi, j'ai grossi, j'ai plus de repères, je ne sais plus qui je suis à travers cette multiplicité de changements qui sont des changements radicaux. C'est le problème que Descartes pose un peu dans cette lettre, qui est la première des deux lettres au père Mélan du 9 février 45. C'est une journée extraordinaire, puisqu'il y a une deuxième lettre, qui est la lettre sur la liberté d'indifférence. Et alors il dit, il y a des changements dans le corps qui sont quand même tellement importants. Il y a depuis que je suis née, il n'y a plus aucune partie de mon corps qui soit la même, un petit peu comme le vaisseau de Thésée que les Athéniens entretiennent. Il n'y a plus aucune partie du vaisseau original. Et puis, par ailleurs, depuis que je suis enfant, mon corps a changé aussi de figure. J'ai grandi, j'ai grossi, j'ai une autre forme. Et qu'est-ce qui fait que, malgré tout, on peut dire que je suis le même malgré ces changements? Ce qui est intéressant, c'est qu'il va convoquer ce modèle de la digestion pour savoir qu'est-ce qui unifie. Au fond, la réponse de Descartes, c'est un principe d'unité métaphysique. C'est l'unité de la substance, de l'âme qui va unifier mon corps, qui en réalité est un flux du fait de cette digestion continue. Je suis un flux et ce qui rapporte toutes les parties de mon corps, et même s'il en manque à à un moi, c'est cette âme, c'est ce principe métaphysique. Alors, on voit que là, chez Descartes, il y a quelque chose qui me garantit finalement de me perdre dans l'altérité de ce que j'ingère, qui est ce principe métaphysique. J'ai une garantie qui fait que je ne vais pas disparaître et devenir simplement ce que j'ai ingéré, que ce soit des connaissances ou des aliments, parce qu'il y a ce principe, il y a ce principe-là, il y a cette garantie-là. Et la dialectique, elle fonctionnera un petit peu pareil chez Hegel. La dialectique, c'est quand même un principe d'identification ou de constitution du sujet. Chez Hegel, le mouvement dialectique, ça me permet de m'approprier et d'incorporer et d'intérioriser ce qui est autre sans être détruit par cette rencontre avec l'altérité.
Néanmoins, le cas de la digestion, et là il faut distinguer quand même l'assimilation des savoirs de l'assimilation d'aliments, c'est que l'assimilation des savoirs, je le fais délibérément, par volonté, je suis conscient de ce que j'ingère, je suis conscient des choix que je fais, des contenus que j'ingère, et puis je le fais pour devenir meilleur, un être qui a plus de connaissances. Or, quand je mange des aliments, c'est par nécessité, c'est pour continuer à vivre. Qu'est-ce qui me garantit et cette digestion se fait toujours à l'écart de ma volonté. Qu'est-ce qui garantit dans ce cas-là, en fait, le fait que je devienne un autre qui soit encore moi-même, un autre qui soit dont je sois encore conscient. Et dans le cas inverse, l'autre question, c'est si je mange seulement pour vivre, qu'est-ce que ça change? En fait, je ne deviens jamais un autre. C'est soit je deviens un autre sans m'en rendre compte et je ne sais pas lequel, je n'ai pas la main dessus, soit finalement je mange pour manger et je reste le même et là se nourrir n'a aucun intérêt. L'idée même de digestion finalement est juste un processus biologique qui ne dit rien de nous.
Alors, peut-être il y a plusieurs choses, il y a plusieurs modèles de consommation de nourriture. Il est peut-être pas si évident d'opposer un processus de connaissance qui serait volontaire et un processus d'assimilation de nourriture qui serait simplement de l'ordre du besoin. On se rend compte que dans les pratiques d'assimilation, il y a d'abord toute une dimension de plaisir qui fait qu'on ne peut pas réduire le fait de manger, le fait de digérer simplement à quelque chose qui serait de l'ordre de la nécessité. Et puis, il y a plein de pratiques nutritives qui sont contingentes au sens où elles sont elles relèvent pas du besoin, de la faim, mais il y a même des modèles excessifs qui seront des modèles absolument antidialectiques, hein. Bataille dira ça, il dira il y a le banquet, il y a l'orgie, et là on a une consommation libre d'énergie sans aucune fonction, on va se rendre malade, et c'est pas dialectique parce que c'est pas un bon régime, c'est pas une bonne économie, je vais pas réussir à m'approprier la totalité de façon équilibrée. Mais je consomme, oui, c'est une libre dépense, il dira ça. Et ça se distingue du bon régime alimentaire, qui serait pour lui un modèle dialectique parfait.
Alors que devient-on quand on s'approprie quelque chose? On devient un autre qui serait quand même encore soi-même, mais finalement, est-ce qu'on devient ce que l'on mange? Est-ce qu'on arrive véritablement à se dissocier de ces particules de vin et de pain que décrit Descartes?
Eh bien, il y a un enjeu et il y a quelque chose. Finalement, il y a quelque chose d'assez angoissant à devenir, je crois, ce qu'on mange. Et c'est ce que dit Bataille. Il dit on ne veut pas voir cet autre modèle de la nutrition, hein, celui du festin, de l'orgie, parce qu'on est très angoissé par cette perte, par le fait de se perdre soi-même dans une consommation qu'on ne maîtrise pas. C'est pas du tout un modèle de nutrition qu'on maîtrise, donc il y a de l'angoisse, et donc on va se restreindre simplement à l'autre modèle, au modèle dialectique de digestion parfaite, parce que après tout on ne sait pas ce qui pourrait advenir de nous. Et là, il y a un enjeu. D'ailleurs, il y a un enjeu aussi dans la consommation d'aliments dont on ne sait pas de quoi ils sont composés, qu'est-ce qui va advenir de nous et de notre corps si on ingère des choses qu'on ne maîtrise pas.
Alice le fait d'ailleurs.
Tout à fait.
Mais ce qui est intéressant aussi, et du coup, vous avez décrit tout à l'heure, Claire Pagès, les étapes du fait de se nourrir. Donc, il y a effectivement le fait d'ingérer, de mastiquer, de digérer et puis effectivement de déjecter. Et cette idée, cette question de la perte, elle est extrêmement intéressante parce que déjà, elle est dévalorisante pour ce qui est de l'ordre peut-être du savoir ou de la dialectique. On va très bientôt parler d'Hegel, mais se demander si la dialectique hegelienne est de l'ordre de la digestion, ça suppose quand même qu'il y ait une partie qui soit perdue et non pas transformée. Mais avant ça, l'alimentation, le fait de se nourrir intellectuellement et physiquement pose le problème de qu'est-ce qu'on perd de nous-mêmes. La question, c'est qu'est-ce qu'on devient malgré nous, mais aussi qu'est-ce qu'on perd en fait de nous-mêmes dès lors que l'on mange et que l'on digère.
Oui, et c'est peut-être une des limites hein, de cette comparaison, c'est que la digestion, elle est pas, sauf dans le cas de certaines choses, mais elle est pas complète. Il y a du résidu, il y a du reste, il y a du déchet. Donc il y a digérer, ça veut dire qu'il y a de l'indigeste, il y a quelque chose qui va être rejeté, et c'est d'ailleurs un problème quand ça peut pas l'être. Alors que le processus dialectique, d'une certaine manière, suppose que tout est digestible, que tout pourrait être récupéré, faire sens, devenir mien, être approprié. Je pourrais, dit Hegel, être partout chez moi. Et la digestion, c'est pas ça, parce qu'il y a forcément quelque chose que je vais laisser de côté, qui est indigeste. Et c'est ce que peut-être des grands critiques de Hegel au XXe siècle vont lui objecter. Ils vont lui objecter un certain nombre de différentes figures ou différentes formes de ce qui est indigeste. On en reparlera tout à l'heure. Lévinas dira, ben on peut pas, l'autre, c'est pas une nourriture qui peut être digérée. Ou on va dire, il y a des accidents dans l'histoire, il y a des horreurs dans l'histoire. C'est du passé qui est pas digestible, dira Althusser. Ou il y a une opposition entre moi et le monde, dira Sartre, et ça, il n'y a pas de digestion possible entre le moi et le non-moi. Donc, ils vont dessiner des formes de choses qui ne sont pas possibles à digérer, qui vont opposer à Hegel.
Look, boy, ain't that a crying shame? I said, why? He said, oh, oops, ouch.
Il est 10h, passé de 28 minutes, vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, semaine dans le ventre des philosophes, où après avoir goûté, s'être privé et s'être goinfré, l'heure est venue de digérer. Et pour parler de la dialectique de la digestion, j'ai le plaisir de recevoir Claire Pagès, directrice de programme au Collège International de Philosophie et auteure de « Qu'est-ce que la dialectique ?» disponible aux éditions Vrin, Hegel et Freud, les intermittences du sens que l'on trouve aux éditions CNRS, et puis aussi de Lyotard et l'aliénation, c'est aux éditions Puf.
Maman ! Maman ! On a faim !
Voilà, tout est prêt, j'arrive.
Un peu de ceci, un peu de cela, et tout ça finira par faire 50 tonnes d'aliments qu'au long d'une vie, l'appareil digestif devra traiter, c'est-à-dire décomposer en éléments de base utiles au corps. La mastication. C'est ici que va commencer le travail. Un travail qui va transformer la nourriture en matériaux, en énergie. Et pendant ce temps, dans une des cellules nerveuses de l'œsophage...
Mais enfin, cessez de dormir, vous voyez bien que le bol alimentaire arrive. Donnez des instructions immédiates aux muscles de la paroi de l'œsophage pour se mettre en mouvement. Instruction immédiate aux muscles de la paroi de l'œsophage. Allez, assez dormi, j'ai dit du muscle. Une, deux.
Le fait de se rendre maître mécaniquement de l'objet extérieur est le commencement. L'assimilation elle-même est le renversement de l'extériorité en l'unité propre à soi. Puisque l'animal est un sujet, une négativité simple, elle ne peut être ni de nature mécanique ni de nature chimique, étant donné que, dans un processus de telle nature, aussi bien les matériaux que les conditions et l'activité demeurent des facteurs extérieurs les uns par rapport aux autres et manquent l'unité vivante absolue. L'assimilation est, premièrement, parce que le vivant est la puissance universelle disposant de sa nature extérieure, opposée à lui, la réunion immédiate de ce qui est accueilli dans l'intérieur avec l'animalité, une infection par celle-ci et une transformation simple. Deuxièmement, en tant que médiation, l'assimilation est une digestion, une opposition du sujet à ce qui est extérieur. Le fait de s'engager ainsi dans un lien avec l'extérieur constitue proprement l'objet et le négatif faisant face à la subjectivité de l'organisme, et que celui-ci a à vaincre et à digérer. Ce renversement de la perspective est le principe de la réflexion de l'organisme en lui-même. Le retour en soi est la négation de son activité dégagée vers le dehors. Ce retour en soi a cette double détermination que, d'une part, l'organisme a rejeté de lui-même son activité mise en conflit avec l'extériorité de l'objet, et que, d'autre part, devenu en tant qu'immédiatement identique avec cette activité, pour lui-même, il s'est, dans ce moyen, reproduit.
Claire Pagès, c'est un extrait de « Il était une fois la vie », un dessin animé des années 80, trouvé par Hervé Marchand, qui nous montre comment procède la digestion, qui permet de comprendre le texte des gueules que l'on vient d'entendre, interprété par Vincent Schmitt, cet extrait de sa philosophie de la nature qui date de 1817. Hegel, dans ce texte, après nous avoir décrit le processus de digestion de la plante, nous explique celui de l'animal et nous dit cette phrase à la fin que par ce processus de digestion, l'animal se fait identique à l'activité même de digestion pour lui-même et qu'il se reproduit dans ce moyen-là. C'est effectivement ce qu'on entend aussi dans l'extrait du dessin animé, à savoir en fait que la personne est complètement identifié à ce principe-là de digestion. Quelle est l'identité entre la dialectique, le principe, le mouvement dialectique de digestion, et puis le mouvement dialectique que l'on trouve chez Hegel, qui est le mouvement de l'esprit, et qui nous permettrait aussi d'identifier une dimension spirituelle et une dimension organique?
Alors, il y a plusieurs choses. Ce qu'on entend très bien dans le premier extrait, c'est que la digestion, c'est un travail. Hein, il dit qu'il faut mettre en branle tout plein de mécanismes. Donc, ça travaille à l'intérieur, ce qui explique que d'ailleurs, au moment de la phase de digestion, les gens soient somnolents, fatigués. Donc, il y a tout un travail intérieur qui se fait. Et pour Hegel, la dialectique, c'est tout à fait ça. C'est un travail, c'est une consommation d'énergie. Et c'est un travail qui est long et difficile. C'est pas du tout quelque chose de facile. Hegel va opposer les gens qui sont séduits par l'immédiateté, par les connaissances immédiates et simples, et tout le patient travail du négatif, la dialectique, qui est il faut faire l'épreuve, c'est une épreuve difficile, longue, on traverse des obstacles, tout un parcours d'obstacles. La digestion, c'est aussi un peu ça. Il y a une deuxième chose intéressante, c'est que il y a la dimension à la fin du texte de Hegel de la reproduction qui est une dimension dialectique très importante, parce que la dialectique, pour Hegel, c'est quand même un principe de négation-conservation. Il y a une négation de la négation qui va permettre une production ou une conservation de soi. Une conservation pas tout à fait à l'identique, parce que c'est un processus, la dialectique, qui est toujours aussi un progrès. Et donc, ça va nous permettre d'être... d'atteindre un stade supérieur, disons. Alors que la digestion, c'est un processus, je ne sais pas si on peut dire que c'est un progrès, elle nous permet de nous conserver, en tout cas de conserver notre forme, notre vie, de nous conserver en vie, de persévérer dans notre être, d'une certaine manière. Alors on peut pas forcément dire, on peut dire processus, mais pas progrès, parce que on n'est pas forcément meilleur. Et puis, même il y a un moment où tout le processus organique de digestion, à la fin de la vie, pourra plus compenser les pertes physiques qui sont connues par l'individu par ailleurs.
Alors, quelle est alors on vient de parler effectivement de un petit peu de découvrir l'identité de la digestion et de la dialectique hegelienne qui passerait par un mouvement, par un processus d'intégration du négatif qui permettrait de se transformer ou du moins de se conserver. Il y a aussi autre chose dans l'idée de la dialectique de Hegel qui est un processus, c'est la vie de l'esprit, nous dit-il. Et c'est très intéressant de souligner cette idée de vie de l'esprit parce que ça nous permet de penser qu'il y a quelque chose dans nos opérations mentales, dans nos opérations de connaissance, d'assimilation, de digestion des savoirs qui serait proprement organique en fait et qui conduirait peut-être à l'idée que quand l'on pense, quand on découvre la vérité, quand on venait dans un dévoilement de l'être, finalement on n'est pas dans un principe spirituel opposé à l'organique, mais véritablement dans un procédé qui serait biologique et organique, même vital.
Oui, alors là c'est un extrait de la philosophie de la nature et Hegel prend très au sérieux le fait que nous soyons un organisme, un corps et un corps vivant. Et d'ailleurs pour lui tout commence là parce qu'il y a un saut pour le processus dialectique avec le vivant qui est que le vivant c'est celui qui va avoir la contradiction dialectique pas à l'extérieur mais à l'intérieur. Donc il va avoir la dialectique en soi et c'est vrai que la digestion c'est quelque chose qui se fait, c'est un processus intérieur. Alors que les choses finies, elles pouvaient avoir avant la dialectique, elles pouvaient subir un processus dialectique qui leur restait extérieur. Et il y a pour Hegel quelque chose, on n'est jamais opposé à son corps comme à un objet, mais je suis lié à mon corps, dit Hegel, par l'unité du concept. Il y a une unité dialectique du corps et de l'esprit, ce qui fait qu'il faut aussi m'approprier mon propre corps pour qu'il puisse me servir. Et là, il y a quelque chose de très intéressant dans le rapport au corps où je vais aussi le façonner, le faire mien. Et mes capacités cognitives, elles vont se jouer aussi dans cette capacité à faire mien mon corps. Il va dire, si j'y arrive pas, il dit les gens qui sont pas habitués à réfléchir, à se servir de leur tête, ils vont avoir d'épouvantables maux de tête quand tout d'un coup, il faut se mettre à réfléchir. Donc, il y a tout ce processus d'appropriation pour que je puisse penser et d'appropriation de mon propre corps.
Est-ce qu'on pourrait dire, alors, est-ce qu'il faudrait quand même distinguer aussi, on alterne entre les deux niveaux, Claire Pagès, à savoir à la fois le côté métaphorique de penser la digestion comme un mouvement dialectique structurel qu'on plaquerait sur la digestion, le mouvement dialectique qu'on plaquerait sur la digestion, et il y a quand même l'idée chez Hegel que on a l'impression, si on le suit vraiment à la lettre, que l'on peut faire de la digestion, même du fait d'ingérer des aliments physiquement, en fait, pas que des savoirs, pas que des connaissances, pas que quelque chose d'immatériel ou de virtuel, que dans ce processus d'ingestion et de digestion, on est déjà dans un processus dialectique, mais de découverte de la vérité de son propre être lui-même. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est au-delà de la métaphore, au-delà de la ressemblance, il y a une véritable identité. Quand je mange, est-ce que je deviens plus moi-même, en fait? Est-ce que quand on atteint un degré supérieur, on atteint un degré supérieur de notre vérité, de ce que l'on a à devenir à être?
Alors, pour Hegel, c'est tout à fait le cas. Je me conquiers moi-même et je suis jamais immédiatement ce que je suis, mais il y a une conquête de mon identité qui se fait par l'expérience et la rencontre, par différentes formes d'aliénation, de rencontres de différentes formes d'altérité. Et c'est comme ça que je vais devenir ce que je suis, par des mouvements d'altération, d'aliénation, et y compris avec celui de la digestion. Donc effectivement, je vais devenir moi-même par ces différentes formes de rencontre. Néanmoins, il y a quand même chez Hegel, ce qui est intéressant, c'est que rien n'est étranger à la dialectique. Hein. La dialectique, c'est une puissance supérieure qui est comparée par Hegel à la puissance de Dieu. Donc, rien ne lui échappe. Mais il y a des types de dialectique et il y a des niveaux de dialectique et il y a des dialectiques de différentes qualités. Et d'une certaine manière, d'un point de vue dialectique, on fait bien mieux que le processus de digestion pour Hegel. C'est-à-dire qu'il y a des autres, enfin des formes d'altérité qui sont de bien meilleure qualité et qui vont permettre d'avoir des processus dialectiques bien supérieurs. Par exemple, quand je serai dans un processus dialectique avec dans mon rapport à autrui, dans la dialectique de la reconnaissance, ça va produire, du point de vue de mon identité, quelque chose de bien plus intéressant que quand l'autre, c'est de la nourriture. Donc, il y a quand même une hiérarchie et je vais pouvoir trouver mieux en rencontrant des altérités qui sont plus consistantes ou qui me ressemblent.
Manger ne se réduit pas à la chimie de l'alimentation. Mais manger ne se réduit pas davantage à l'ensemble de sensations gustatives, olfactives, kinésiques et autres qui constitueraient la conscience du manger. Cette morsure sur les choses que, par excellence, comporte l'acte de manger, mesure le surplus de cette réalité de l'aliment sur toute réalité représentée. Surplus qui n'est pas quantitatif, mais qui est la façon dont le « moi », commencement absolu, se trouve suspendu au « non-moi ». La corporéité de l'être vivant et son indigence de corps nu et affamé est l'accomplissement de ces structures, et comme une position sur terre qui n'est pas la position d'une masse sur l'autre. Certes, dans la satisfaction du besoin, l'étrangeté du monde qui me fonde perd son altérité. Dans la satiété, le réel sur lequel je mordais s'assimile. Les forces qui étaient dans l'autre deviennent mes forces, deviennent moi. Et toute satisfaction de besoin est par quelque côté nourriture. Par le travail et la possession, l'altérité des nourritures entre dans le même. Toujours est-il que la relation est foncièrement distincte de la génialité de la représentation. Ici, la relation se renverse comme si la pensée constituante se piquait à son jeu, comme si la liberté en tant que commencement présent absolu se trouvait une condition dans son propre produit, comme si ce produit ne recevait pas son sens d'une conscience qui prête un sens à l'être. Le monde où je vis n'est pas simplement le vis-à-vis ou le contemporain de la pensée et de sa liberté constituante, mais conditionnement et antériorité. Le monde que je constitue me nourrit et me baigne.
Claire Pagès, on doit cette phrase « Le monde que je constitue me nourrit et me baigne » à Lévinas dans cet extrait de Totalité et Infini qui date de 1961 et que le comédien Vincent Schmitt a donc interprété pour nous. Et Lévinas, on doit le dire, c'est un des critiques féroces de Hegel, de la dialectique hegelienne, et précisément sa critique va être développée à partir de cette identification entre dialectique et digestion chez Hegel. Chez Hegel, l'homme dévore le monde dans son entier, l'assimile et peut même le déjecter. Or, pour Lévinas, ce qui est important, c'est de garder, conserver une altérité avec le monde. Il y a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Claire Pagès, des choses qui sont indigestes.
Oui, c'est un texte extraordinaire parce que Lévinas brosse de la question de la nourriture un portrait qui est en réalité assez complexe. Et on a plusieurs termes, on a la nourriture, on a la question de la représentation qui nous intéresse depuis tout à l'heure, du savoir, et puis on a la question du rapport éthique. Dans un premier temps, et puis j'en viens à votre question, Lévinas fait une différence qui est très importante entre le fait de se nourrir, de vivre de et le fait de se représenter les choses. Pour lui, il y a une différence entre le monde de la et le mode de la représentation où tout est mien, hein, mes représentations, elles sont dans mon esprit, elles sont miennes, elles sont intérieures, et il y a quelque chose de mieux dans la nourriture, parce que quand je vis de choses, je vis de qualités sensibles qui me sont extérieures. Donc dans la nourriture, il y a une ouverture sur le monde. Je suis y a une altérité des nourritures. Je ne suis pas simplement en rapport avec moi-même. Et de ce fait, il y a aussi de l'insécurité. Parce que comme je suis tributaire du monde pour me nourrir, ce monde pourrait ne pas être prolixe, il pourrait ne pas me fournir ma nourriture. Donc, il y a quelque chose qui intéresse beaucoup Lévinas dans le fait d'être tributaire de nourriture qui me sont extérieures. Et il y a une étrangeté du monde. Et donc ça l'intéresse beaucoup. Et puis, il y a un autre aspect qui est que ces nourritures, je vais les consommer, je vais les faire miennes, hein, je vais m'en repaître, ça va me contenter, dit-il. Et alors c'est absolument nécessaire, hein, Lévinas dit pas le contraire. Et ça va définir un régime qu'il appelle un régime économique. Hein, qui est le régime de la nourriture. Pourquoi ? Parce que l'oikonomia, en grec, c'est la gestion de la maison, la gestion du chez-soi. Et donc, ce qui est économique, c'est quand j'organise, j'organise mon moi, j'organise mon chez-moi. Et la nourriture, c'est ça, c'est que je m'approprie ce qui était extérieur pour en faire des parties de moi-même et la condition de ma conservation. La difficulté, à partir de là, c'est quand je pense sur le modèle économique des choses qui sont pas digestibles ou des choses qui peuvent pas être pensées de cette manière-là, qui peuvent pas être incorporées, qui peuvent pas être appropriées. Et c'est la grande critique que Lévinas fait dans Totalité et Infini à Hegel, c'est que Hegel aurait considéré l'autre avec ce modèle économique de l'appropriation ou de la digestion. Et pour Lévinas, il y a une irréductibilité du rapport éthique. L'autre, il peut jamais être approprié comme une nourriture. D'une certaine manière, il faut respecter son étrangeté absolue qui peut jamais devenir mienne.
Il y aurait toute une distinction à faire à cet égard, Claire Pagès, entre le fait de manger, d'assimiler, mais aussi de digérer, et puis aussi le fait de mordre. Lévinas a cette très belle expression dans ce texte qui est que on mord les choses, en fait on va mordre le monde pour prendre conscience de notre unité en tant que sujet, mais aussi pour prendre conscience du monde, de la prééminence du monde sur nous qui va me nourrir. Mais néanmoins, si on peut abandonner le modèle conceptuel de la dialectique qu'élabore Hegel, il est difficile de penser le fait de mordre et de manger sans digérer. C'est le modèle même peut-être de la digestion qui doit être abandonné conceptuellement, mais comment on ne peut pas l'abandonner physiquement ? Il y a quelque chose qui va résister dans cette critique de Lévinas.
Oui, d'ailleurs, il y a un double... Lévinas, il parle d'un modèle qui est un modèle égoïste, mais d'abord, c'est pas quelque chose qui est négatif chez lui. Il y a un égoïsme nécessaire, il y a une digestion nécessaire. Il nous dit qu'il faut absolument s'inscrire dans cette modalité de la jouissance du monde. C'est quelque chose dont on ne peut pas se passer. Le problème, c'est quand ce modèle digestif devient envahissant et va contaminer tous les aspects de l'existence. Et c'est cette contamination que Lévinas critique chez Hegel, puisque pour lui, Hegel, c'est quelqu'un qui a fait de l'autre une nourriture. Hein. Hegel dit, il faut la dialectique, c'est ce qui me permet d'être partout chez moi, hein, y compris dans l'autre. Hein. Et l'autre, ça va être toujours mon autre chez Hegel, parce que je vais me l'approprier. Chez Lévinas, c'est pas possible, parce que si je fais ça, je porte la main sur l'autre et je vais mettre en danger sa différence, son intégrité. Donc il y a quelque chose dans le rapport éthique qui doit résister absolument à ce modèle dialectique. Hein. Il va opposer l'acte dialectique, qui est d'une certaine manière un modèle de digestion, et puis le rapport éthique, qui est de l'ordre de la transcendance.
Il y a une altérité à l'extérieur du sujet qu'il faut conserver, selon Lévinas. Ce que la digestion peut-être permettre, mais comment ? C'est-à-dire que on sait que Paul Ricoeur, par exemple, disait que parler de soi-même comme un autre. Qu'est-ce que ça pourrait être finalement chez Lévinas à partir de sa critique d'Hegel ? Est-ce que ça pourrait être que l'on ingère de l'autre et que finalement ça nous enrichit, comme si en fait on formait une forme de communauté avec des altérités, des différences ? Ou est-ce que la digestion résiste effectivement et transforme tout en même, d'ailleurs, comme il le dit dans ce texte, les forces qui étaient dans l'autre deviennent mes forces, deviennent moi.
Oui, je crois que c'est irréductible pour Lévinas. La digestion, c'est une forme d'appropriation. Il y avait eu un petit espoir au début parce que je suis tributaire d'un monde extérieur au départ pour me nourrir. Donc, je suis suspendue à quelque chose qui ne dépend pas de moi et c'est pour ça qu'il y a une insécurité. Mais malgré tout, après, ça se referme et je vais m'approprier tout ce que je mange. Et Lévinas, il dit, c'est égoïste, je suis tout seul d'une certaine manière avec mes nourritures. Hein, c'est une satisfaction égoïste et l'autre a plus de consistance. Donc, c'est un modèle pour Lévinas qu'il faut abandonner.
C'est-à-dire qu'on perdrait l'idée même de convivialité ou même du fait de se nourrir, de s'enrichir dès lors que l'on pense la digestion.
Oui, le modèle de la digestion, c'est que l'autre est transformé en même. Et donc, il faudrait sans doute un autre rapport à la nourriture. Et il y a d'autres manières d'appréhender la nourriture que de l'appréhender par le biais de la digestion. Hein. Il pourrait y avoir dans le partage ou dans la communauté des aliments où il y a des modèles non dialectiques de nourriture. On parlait tout à l'heure de bataille. Bataille, il parle du festin ou de l'orgie. Et il parle aussi, dans le potlatch, ça pouvait être des nourritures qui étaient sacrifiées. Donc on peut avoir un autre rapport que digestif à la nourriture. On peut en faire offrande.
Et à l'inverse, si on renverse le rapport comme le fait Lévinas, c'est-à-dire dire que d'abord c'est le monde qui me constitue et qui me nourrit plutôt que moi qui me nourris du monde, en fait, inverser le rapport entre le sujet et le monde, est-ce qu'on peut véritablement mordre le monde, comme il le dit, sans pour autant aussi le transformer? La question n'est pas, ce qui est en jeu, ce n'est pas la transformation de soi, mais la transformation du monde.
On imprime, mais c'est un modèle dialectique, on imprime sa marque sur l'extériorité via cette consommation. Et c'est ce que dit Hegel. L'approche de Lévinas, elle est quand même assez différente. Il y a... Peut-être ce qui l'intéresse, c'est cette dimension d'insécurité. C'est que ça me fait... trembler dans le modèle, dans le fait de manger, je fais quand même malgré tout l'expérience que tout dépend pas de moi. Parce que je suis tributaire d'un monde extérieur. Alors certes, je vais le transformer, je vais me l'approprier pour pouvoir le digérer et le manger. Mais s'il fait défaut, je suis dans une difficulté très grande. Donc je suis quand même tributaire d'une extériorité que je vais jamais m'approprier complètement.
Heures du soir, ils vont arriver. Je vais m'asseoir, me reposer. Pour avoir l'air décontracté, je vais me raser. Je crois que je sens un peu les légumes. Je vais mettre mon costume. Oh, oh puis non, ils vont rire de moi comme l'autre fois. Que j'avais ciré mes chaussures pour aller en voiture. Et mes amis ne sont jamais à l'heure. Ils ont toujours à faire. Mais ils ne repartent jamais de bonheur. Encore un verre. Oh, fitait,
merci beaucoup Claire Pagès d'être venue nous parler de la dialectique de la digestion et de la digestion dialectique. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Qu'est-ce que la dialectique, justement, c'est aux éditions Vrin, aussi de Hegel et Freud, les intermittences du sens, c'est aux éditions du CNRS, et puis aussi de Lyotard et l'aliénation, c'est au PUF.
Jean et Marianne, Suzanne et François, Robert et Daniel, Joël et Michel. Il m'en manque un, j'ai dressé pour neuf.
Et quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve demain pour les chemins du vendredi où j'aurai le plaisir d'accueillir le philosophe Bernard Stiegler pour la parution de son livre « Dans la disruption, comment ne pas devenir fou » qui est paru aux éditions « Les liens qui libèrent ».
Oh,
Et quant à vous, si vous souhaitez réécouter cette émission et toutes celles de cette semaine d'une philosophie par le menu, eh bien, si vous voulez la réécouter en ligne ou la télécharger ou la podcaster, rendez-vous sur le site de France Culture à la page Les Nouveaux Chemins. Vous y trouverez en plus toutes les références bibliographiques et musicales. Et puis, vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et Twitter pour suivre nos programmes. Et comme tous les jeudis, voici venu le temps de notre partenariat Philosophie Magazine, dont le numéro de juin est un numéro spécial. Et oui, c'est le numéro 100, et pour l'occasion, la question centrale est « Qu'est-ce que la philosophie ?» Et pour y répondre, vous pourrez lire les contributions, entre autres, de Francis Wolff, Rémi Brague, Chantal Mouffe ou encore Marcel Conche. Et puis j'en profite pour remercier Hervé Marchand, et oui, en avance, qui a été présent toute cette semaine pour réaliser ses émissions, ainsi que Véronique Villa.